On était encore tout à l'heure avec eux à réceptionner des gilets de protection, des talkie-walkie, des munitions, des armes.
Bonjour, je m'appelle Yves Pulici et le journaliste que vous venez d'entendre, c'est Jérémy Normand. Il a traversé la frontière ukrainienne avec Jérémy Müller. Objectif, raconter la résistance. Les premiers pas dans une zone de conflit entre méfiance et hospitalité. Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Jérémy.
Salut Yves, bonsoir.
Alors, où es-tu en ce moment ?
Eh bien écoute, je suis à Lviv, plus précisément dans les faubourgs de Lviv, donc à l'ouest de l'Ukraine, à seulement 70 km de la frontière polonaise. On est loin ici des affrontements qui font rage en ce moment même à Kiev. On est à plus de 500 km de la capitale et je me trouve dans un appartement occupé par des habitants de la ville qui ont envoyé leurs femmes et leurs enfants de l'autre côté de la frontière, du côté polonais, et qui ont décidé de vivre ensemble pendant cette période très très particulière pour d'une part des raisons de sécurité et aussi parce que voilà, ces habitants, en fait ces hommes, ont décidé de s'organiser, ont tout arrêté, hein, ils ont tout mis sur pause. Ils sont pour certains enseignants, pour d'autres ingénieurs, pour d'autres chefs d'entreprise, et ils ont tout mis sur pause pour rejoindre cette résistance qui s'organise ici à Lviv. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé enfin qu'ils occupent cet appartement qui leur sert un peu de QG, quoi, carrément.
Là on est jeudi soir et c'est toi qui leur prépare à manger ce soir.
Oui, voilà, c'est mon tour. C'est vraiment c'est une vie en collectivité qui ressemble beaucoup à une colocation. Ils en rigolent beaucoup d'ailleurs parce que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas retrouvés séparés de leur femme. C'est pour la plupart d'ailleurs la première fois. Alors c'est tantôt plutôt drôle quand on essaye de voir les choses du bon côté. Et puis parfois il y a des moments plus difficiles, notamment quand les téléphones sonnent et qu'au bout du fil, il y a à travers l'écran leurs épouses, leurs enfants qu'ils n'ont pas vu depuis maintenant une semaine, hein, quasiment. Et donc voilà, on oscille entre des moments de camaraderie et puis des moments un peu plus graves où voilà, la situation elle est quand même très pesante ici.
Ça fait combien de temps que tu es dans cette communauté de résistants là ?
Écoute, on est arrivé avec Jérémy Müller, on est arrivé samedi dernier, donc ça fait 5 jours déjà. On est arrivé ici tout simplement parce que on était côté polonais. On a commencé notre reportage pour Ligne Rouge côté polonais et on s'est approché de la frontière. On s'est rendu dans la gare de Przemyśl, qui est une ville quasiment frontalière. C'était une gare où en fait arrivaient beaucoup de trains et de bus en provenance d'Ukraine, avec à leur bord des femmes et des enfants essentiellement. Et avec Jérémy Müller, on avait l'envie justement de raconter l'histoire d'une famille, si possible, qui nous auraient raconté leur périple, pour ensuite nous passer côté ukrainien, retrouver leur mari et raconter ensuite l'histoire du mari resté, pour comprendre pour quelles raisons tout simplement il est resté, comment ils se sont organisés pour voilà, continuer à vivre dans cette période, dans cette guerre tout simplement.
Lundi de cette semaine, il y a le magazine Ligne Rouge, un magazine documentaire que vous avez réalisé avec Jérémy Müller et Régis Desconclois.
Oui, voilà, exactement.
Sur des résistants, ouais, en Ukraine. Et vous saviez déjà, quand vous êtes parti dans cette gare à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, que vous vouliez rencontrer des résistants en Ukraine ?
Non, pas du tout. Tout s'est fait en fait au fur et à mesure de nos échanges, de nos lectures, notre compréhension en fait de ce qui se passait, parce que faut bien comprendre que lorsqu'on a pris l'avion avec Jérémy Müller, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On a pris l'avion mercredi dernier. Le conflit commençait tout juste. On a atterri à Varsovie. On s'est rendu dès que possible à la frontière de la Pologne, à la frontière ukrainienne, avec pour objectif au début de voilà raconter l'histoire de ces réfugiés de guerre. Hein. Et ensuite, on s'est dit voilà comment continuer de raconter l'histoire de ces familles qu'on avait rencontrées. Et donc, on s'est dit allez, partons côté ukrainien. Donc, on a évidemment validé ça avec la direction de la rédaction pour se dire allez, on va côté ukrainien. On va retrouver les maris de ces femmes avec qui on a échangé. On va essayer de comprendre mais comment eux s'organisent à Lviv, puisque leur femme nous avait dit qu'ils étaient restés avec pour intention de combattre, de rejoindre la résistance.
On a laissé nos maisons, nos emplois, nos maris, toute notre vie.
Vos maris ne sont pas avec vous ?
Nos maris ne sont pas avec nous, car dans notre pays, ils doivent
rejoindre l'armée.
Il vous manque ?
Oui. C'est difficile pour nous.
Lorsqu'on a échangé avec Ola, elle était très émue, elle était esseulée de son voyage. Elle nous racontait les larmes aux yeux, son périple et la tristesse qu'elle avait, bien sûr, d'avoir dû laisser derrière elle son mari. Mais elle avait de la fierté aussi, cette fierté de nous dire, oui, lui, il est resté pour combattre, pour repousser l'armée de Poutine. Alors là, ça nous a vraiment tout de suite donné envie avec Jérémy Muller de nous rendre côté ukrainien, de rencontrer cet homme. Et d'autant plus qu'elle nous avait bien précisé qu'il n'était pas du tout ni militaire, ni policier, ni quoi que ce soit. Il n'avait jamais tenu une arme de sa vie, et donc on s'est dit voilà un homme ordinaire dont on a envie de raconter aujourd'hui le quotidien. On a pris contact avec lui, on est passé nous côté ukrainien dans une fourgonnette avec des Ukrainiens qui étaient en Pologne et qui voulaient eux-mêmes rejoindre l'Ukraine pour se battre, qui n'étaient pas autorisés à aller en Ukraine. On a laissé notre voiture côté polonais, on a monté dans cette fourgonnette de résistants ukrainiens qui voulaient rejoindre leur pays, on a fait la route avec eux. On a passé la frontière avec eux, on a fait la route avec eux, et puis ils nous ont laissés au bord de la route où nous attendait depuis 4 heures déjà le mari d'Ola. Il s'appelle Yaroslavik, et il nous attendait depuis 4 heures au bord de la route pour ensuite nous emmener dans ce quartier général où il vit depuis quelques jours avec ses amis et d'où il organise cette résistance.
Justement, il ressemble à quoi ce quartier général ?
C'est un appartement comme un autre, c'est un grand appartement, c'est un appartement familial où ce groupe d'amis qui d'ordinaire ne se voient que pour des dîners, que pour des moments plutôt joyeux, hein, comme vous et moi, mais en fait... Là, ils se sont dit, allez, on va vraiment s'y mettre jour et nuit, et c'est vraiment ce à quoi on assiste, hein, jour et nuit, c'est des coups de fil, c'est les yeux rivés sur les écrans de téléphone pour suivre l'actualité, et puis c'est des tours de garde répétés, quotidiens, aux checkpoints qui se sont montés tout autour de la ville, et donc on les suit, en fait, dans leurs activités. Alors au début, on a tâtonné un petit peu, puisqu'on ne savait pas du tout si on allait pouvoir filmer leurs opérations, qui nous paraissait assez impressionnante et confidentielle à la fois, parce qu'il nous disait bien qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de méfiance, beaucoup de suspicion envers tout étranger, mais tout de suite voilà, un lien de confiance s'est instauré, s'est établi avec ces hommes, et donc on a pu les suivre dans leurs activités. Alors pour te donner un exemple, dès le premier soir où on est arrivé avec Yaroslavik, on a traverser un checkpoint, et c'était moi je pense l'une des premières fois que je voyais un checkpoint. La dernière fois que j'avais passé un point de contrôle comme ça, c'était au moment des gilets jaunes, lorsque les ronds-points étaient bloqués, donc c'était il y a de cela plus de 3 ans. Bon, évidemment ça n'a rien à voir, mais c'est tellement rare d'être comme ça en pleine ville et de devoir montrer patte blanche, hein, puisque c'est ce dont il s'agit, montrer patte blanche pour pouvoir avancer, et non pas auprès d'autorités policières ou militaires, mais non, auprès d'habitants qui ont désormais des armes en bandoulière, des fusils de chasse, des revolvers, et qui font la police à l'entrée et à la sortie de la ville. Nous-mêmes étant étrangers et journalistes, on inspirait de la méfiance, il faut le dire, donc on devait à chaque fois ouvrir le coffre de la voiture. On avait en plus du matériel de protection, des gilets pare-balles, des casques de protection avec nous, donc il fallait expliquer pourquoi on avait ça avec nous dans le coffre, et donc c'était évidemment en cas d'aggravation du conflit ou de propagation du conflit ici à Lviv. Déjà ça mettait tout de suite dans l'ambiance, hein, il faut bien le dire, hein. C'était des hommes au visage fermé, très concentrés dans le froid. On est en Ukraine, il fait très froid le soir. Ces checkpoints, ils étaient encore très artisanaux, il n'y avait pas même de feu. Donc on les voyait, ces hommes, passer des heures comme ça dehors à contrôler toute voiture qui voulait entrer ou sortir de la ville. C'est vraiment ce qui nous a je vais pas dire choqué, mais j'avais jamais vu ça de ma vie.
Vous avez eu peur à certains moments, soit sur ces checkpoints, soit quand vous les voyez fabriquer des armes, des cocktails Molotov?
Pour être très honnête, l'un des moments où j'ai eu le plus peur, on est ici encore une fois loin des zones de combat, donc ce que je vais dire n'a rien à voir avec l'intensité de la tension qu'il y a à l'est du pays. Mais lorsqu'on tournait par exemple une séquence dans une entreprise qui s'est mise à fabriquer des systèmes de défense anti-chars russes. On a filmé le soir de notre arrivée d'ailleurs, puisque notre hôte Yaroslavik avait rendez-vous dans cette usine pour justement prêter main forte. Lorsqu'on a filmé dans cette usine, on s'est déjà rendu compte de la vraie préparation et de la détermination de ces habitants qui hier encore fabriquaient des cheminées et ce soir-là s'étaient mis à fabriquer des systèmes de défense anti-chars. Enfin, Enfin, il faut bien comprendre qu'on est dans du matériel de guerre. D'ailleurs, ces systèmes-là servaient lors de la Seconde Guerre mondiale contre les chars allemands de l'armée nazie. Donc, on est vraiment dans un état d'esprit guerrier. Et à côté de nous, un homme qui bredouillait trois mots de français et qui était très sympathique nous montre son fusil de chasse. Et au moment où il nous le montre, une cartouche en tombe. Son fusil était chargé, il était en train de nous le montrer face à nous, non pas brandi vers nous, mais on voyait bien qu'il n'avait pas pour habitude d'avoir une arme à la main. La cartouche en tombe et on se dit, d'accord, on n'est pas avec des militaires, on n'est pas avec des forces de l'ordre aguerries qui savent ce qu'elles font, on est avec des habitants qui peut-être pratiquent la chasse le week-end ou qui pour d'autres, et ils nous l'ont dit, avaient des fusils dans leur cave mais ne les avaient pas sortis depuis des années. Donc on est ici quand même dans une résistance parfois artisanale.
Il va chercher son fusil dont il se sert contre les sangliers. Et son pistolet pour le tir sportif.
J'ai ça et ça, ce sont mes flingues.
Ce sont vos armes pour combattre les Russes ?
Oui, on s'en servira contre les Russes s'ils viennent jusqu'ici.
Vous êtes prêt à les utiliser ?
Oui, bien sûr que je suis prêt.
Et il y a ce contraste intéressant entre leur détermination et la vitesse avec laquelle ils ont monté ces checkpoints. Il y en a déjà plus de 30 autour de la ville, avec des herses, avec des blocs de béton, avec des sacs de sable. Donc on est quand même ici sur des systèmes qui sont vraiment très très opérationnels. Et de l'autre côté, ce maniement des armes qui est pas du tout encore, en tout cas chez les personnes qu'on a rencontrées, qui semble pas du tout habituel.
Votre documentaire Ligne Rouge, il est sorti lundi. Qu'est-ce que vous faites depuis lundi en ce moment, toujours dans cette communauté de résistants ? Vous préparez un prochain documentaire ?
Alors, c'est vrai qu'on s'est demandé avec les équipes de la rédaction à Paris comment on allait continuer de raconter cette résistance ici à Lviv. Il faut savoir qu'on a travaillé dans des délais qui étaient évidemment très courts. D'ordinaire, pour diffuser un reportage de 15 minutes, ça nous demande au moins 2 à 3 semaines de travail, parfois 4 lorsqu'il s'agit d'enquête où il y a de l'investigation. Là, on est dans du reportage pur, comme on dit, c'est-à-dire que on a des personnages, c'est comme ça qu'on dans notre jargon, on appelle les personnes que l'on suit. Ce sont nos personnages, nos héros, nos fils rouges, et on les suit dans leurs activités. Et donc, on filme quasiment tout ce qu'ils font dès lors que ça nous apparaît pertinent et qu'on a leur accord. Il y a des séquences qui étaient plus difficiles à négocier que d'autres. Pour te donner un exemple, les checkpoints dont je te parlais à l'instant, ils sont très surveillés. Ils n'ont pas du tout envie qu'on les filme. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible par l'aviation russe. Et donc, y filmer est extrêmement délicat. C'est d'ailleurs quasi impossible. Il nous a fallu plus de 3 jours pour obtenir enfin une autorisation d'y faire un duplex qu'on a dû faire depuis notre voiture. Interdiction d'en sortir. Et rien que pour ça, alors que les hommes que l'on suit ont beaucoup de connexions dans la ville, on s'en est rendu compte au fur et à mesure de nos tournages, alors qu'ils ont beaucoup de connexions, ce tournage-là auprès d'un checkpoint était très compliqué. Donc voilà, donc on a filmé comme ça au gré de leurs activités, tantôt au checkpoint, tantôt dans cette usine de fabrication de chars anti-russes, tantôt à des préparations très artisanales de cocktails Molotov, puisque le président Zelensky lui-même a appelé les habitants à préparer des cocktails Molotov pour les jeter sur les tanks russes. Et donc voilà, on a vu ces habitants vraiment se déployer toute leur énergie dans diverses activités. Et nous, on envoyait nos images à la rédaction à Paris, et donc j'étais en lien en permanence avec ma rédactrice en chef Myriam Alma et avec Régis Desconclois qui montait le reportage, qui réceptionnait nos rushs. Donc les rushs, c'est les images que l'on tourne. On a envoyé quasiment 5 heures de rush pour un reportage de 15 minutes. Et donc Régis, avec aussi Nicolas de la Barrère et les monteurs de la rédaction, ont ingéré ces heures de rush en très peu de temps, et en 2 jours, ils ont dû faire le tri entre ce que l'on gardait, ce que l'on ne gardait pas, pour raconter l'histoire de ces résistants. Et ça a donné ce reportage de 15 minutes qu'on a réussi à diffuser lundi soir. Voilà.
Est-ce que vous avez des procédures pour vous protéger, je sais pas, pour éviter d'être suivi ou vous poser des questions sur comment est-ce que vous prenez vos téléphones portables, la voiture ?
On est avec des résistants, on est avec des gens qui ont accès à des informations confidentielles, avec des gens qui font venir du matériel de guerre, hein, il faut le dire. on était encore tout à l'heure avec eux à réceptionner des gilets de protection, des talkie-walkie, des munitions, des armes. Donc on a accès via les personnes qu'on suit à des informations qui pourraient être utiles à des services de renseignement russes. Donc on fait très attention à ne pas devenir des éléments qui mettraient en danger la vie des personnes que l'on suit, qui acceptent de nous exposer leurs activités. On est un peu à l'écart de la ville. Les habitants qu'on suit ont choisi de s'installer dans une maison qui est un petit peu à l'écart de la ville pour être, selon eux, moins exposés à d'éventuelles frappes aériennes. Donc on n'entend pas d'ici les sirènes qui retentissent très régulièrement dans la ville pour prévenir les habitants d'une potentielle attaque aérienne. Ici, c'est sur les radios qu'on se branche et qu'on entend ces sirènes. Dès qu'il y a une sirène, on se réfugie évidemment à l'intérieur. On est dans une maison qui semble assez robuste. Mais sinon, quand on se déplace, on sort jamais de la voiture inutilement. On regarde toujours autour de nous. En fait, on ne fait rien d'inutile. C'est-à-dire que la photo qu'on prendrait d'ordinaire de tel lieu, de tel monument, on ne la prend pas parce que ça peut causer des ennuis, parce que si la photo est récupérée ensuite par qui que ce soit sur mon téléphone, ça peut dire quelque chose, ça peut donner une information. La balade qu'on pourrait faire en fin de tournage, qu'on fait d'ordinaire dans des reportages, là, on ne la fait pas parce que c'est prendre un risque inutile. Toutes ces petites activités qu'on fait d'ordinaire en reportage, là, on ne les fait pas parce que ce serait des risques qu'on ne mesure d'ailleurs même pas, parce que forcément on est dans une situation qu'on n'a pas l'habitude de traiter, et donc on se dit ok, on n'a pas tous les éléments, donc on ne sait pas pourquoi il ne faut pas faire ça, mais ne le faisons pas parce qu'il y a peut-être un risque qu'on ne mesure pas, dont on n'a même pas idée, mais on fait vraiment attention à limiter au maximum tout risque, et on se concentre sur notre reportage, rester avec les personnages que l'on suit, qui eux ont des appuis, connaissent bien les lieux, traduisent dès lors qu'on est face à des autorités, nous présente, assure aussi en fait notre sécurité. Hein. C'est aussi beaucoup plus simple pour nous d'être avec des gens qui parlent la langue, qui connaissent les gens sur place. Pour te donner un exemple très simple, notre hôte, Yaroslavik, il est très ami avec le directeur de la police de Lviv. Donc ça nous a permis, par exemple, quand on a été contrôlé longuement à un checkpoint et que les personnes qui nous contrôlaient ne voulaient pas nous laisser passer parce qu'on était étrangers, parce qu'on n'avait pas les papiers qu'il leur fallait, même si on avait nos cartes de presse avec nous, nos passeports, mais en tout cas, on était après le couvre-feu, on n'avait pas les papiers. Bon, notre hôte, pour parler de lui comme ça, puisqu'on dort chez lui, notre hôte a passé un coup de fil à son ami à la direction de la police et ça a pu faciliter les choses. Bon, évidemment, dans cette période-là, rien n'est inutile, aucune connexion n'est inutile, aucune relation n'est inutile. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir faire notre travail dans ces conditions tout à fait particulières.
Ouais, bien sûr. Là, quoi vous ressemblez vos prochaines heures, vos prochains jours avec Jérémy Müller? Vous partez demain à Kiev?
Voilà, exactement. Depuis la diffusion de notre reportage dans Ligne Rouge lundi soir, on s'est demandé avec Jérémy comment on allait poursuivre notre récit de ce qui se passe ici. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a ces résistants ici qui préparent une éventuelle invasion russe. Mais cette invasion russe, elle, pour l'instant, elle ne vient pas. Ça fait déjà 5 jours qu'on est ici. Hormis les sirènes qui retentissent ici, comme partout dans le pays, cette résistance, elle reste pour l'instant vraiment au niveau de l'anticipation. Et donc, on a rencontré une dame d'une cinquantaine d'années qui, elle, avait fui Kiev lors des premiers bombardements, s'était réfugiée ici avec sa fille à Lviv et a décidé, nous dit-elle, de repartir à Kiev pour rejoindre la résistance. Et donc, on a décidé avec Jérémy de l'accompagner dans son périple, 500 km. D'ordinaire, c'est environ 10 heures dans les routes ukrainiennes. Là, ça va être plutôt 2 jours. Et donc, on a décidé de l'accompagner dans son périple pour rejoindre la capitale, rejoindre la résistance. Et donc, on va raconter sa détermination et son engagement en traversant le pays avec elle et en espérant rejoindre Kiev d'ici vendredi soir, dans 2 jours.
Merci beaucoup, Jérémy, d'avoir pris le temps de nous raconter un peu les coulisses de vos documentaires avec Jérémy Müller.
Avec plaisir.
Bon courage pour rejoindre Kiev et à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous.
Merci Yves, à bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode du service Reportage, un nouveau podcast créé pour mieux couvrir la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes sont prévus, donc abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming et sur le site et l'application BFM. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.